Radio Okapi.
Le journal de Noëlla Louzitour à la présentation.
Plusieurs cérémonies de remise et reprise ont eu lieu dans plusieurs ministères ce jeudi à Kinshasa. L'entrée officielle en fonction de ces nouveaux ministres intervient après l'investiture du gouvernement souminois par l'Assemblée nationale et la remise et reprise entre le chef du gouvernement sortant et l'actuel premier ministre. Plus de 25 personnes tuées hier, c'est le bilan d'une attaque attribuée aux ADF à Maïkengo, un village du secteur de Bapere et dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, confirme cette information et annonce le renforcement de la présence des FRDC dans la zone. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo Cinco est l'invité de ce journal. Monseigneur Donancien Cholet va commenter l'investiture du gouvernement siminois et va aussi parler de l'accompagnement de l'Église catholique pour la mise en œuvre du programme présenté par la Première ministre. Bonsoir à tous. Après l'investiture du gouvernement souminois par l'Assemblée nationale et la remise et reprise entre le chef du gouvernement sortant Samalou Kondé et l'actuel premier ministre Judith Suminois, plusieurs ministres sont entrés officiellement en fonction ce jeudi. Une série de cérémonies de remise et reprise ont effectivement eu lieu dans les différents ministères ce jeudi grâce à Mzati.
C'est depuis le matin que les rendez-vous étaient pris dans plusieurs ministères pour la prise de fonction des nouveaux membres du gouvernement, notamment au ministère du Plan où le vice-premier ministre Guilain Nyembo, ancien directeur du cabinet du chef de l'État, a pris ses fonctions. Julien Paluku prend le bâton de commandement du commerce extérieur après la remise et reprise avec Jean-Lucien Boussa, nouveau ministre du portefeuille. Les deux ont fait le même exercice, l'un avec son successeur à l'industrie Louis Kabamba Watum et l'autre avec sa prédécesseur au portefeuille Adel Kainda. Le nouveau ministre du Développement Rural Mouindonzang passe les bâtons de commandement de l'enseignement supérieur à Safi Songo Ayan. Remise et reprise également dans la journée au ministère de la Justice, des Sports, de l'Éducation nationale, des Finances, de l'Intérieur et Sécurité et à tant d'autres ministères.
Et puis le président Félix Tshisekedi nomme Anthony Kinzo comme directeur de cabinet. Il remplace à ce poste Guilain Nyembo, devenu vice-premier ministre et ministre du Plan. Avant sa nomination à la tête du cabinet et du président de la République, Anthony Kinzo était directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI. Nous en parlions dans le sommaire. Au Nord Kivu, au moins 25 civils ont été tués hier après-midi dans une attaque attribuée aux ADF à Maïkengo, un village du secteur de Bapere dans le territoire de Lubero. La société civile parle d'un bilan encore provisoire et rapporte que plusieurs maisons ont été incendiées par les assaillants. La population de Maïkengo vient de vider le milieu pour se déplacer vers des milieux jugés et plus sécurisés. Colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, confirme ces informations. Il annonce également le renforcement de la présence des FRDC dans la zone. Il est au téléphone de Martial Papimukeba.
Dans le village Maïkengo, il y a eu l'attaque de terroristes ADF Nalu. Et au moment où je vous parle, le premier bilan que nous avons eu est de 25 personnes tuées. Il y a deux maisons brûlées, incendiées. Il y a plusieurs blessés. Nos forces armées sont déjà sur place. Et depuis hier soir, pour sécuriser le village, ses environs, sécuriser également la population et leurs biens. Et je demande seulement à la population d'être calme et d'avoir confiance à l'autorité et à nos forces de défense. Il y a aussi des déplacés qui ont vidé leur village et maintenant, au moment où nous parlons, se réfugient au niveau de chef-lieu du secteur qui est à Mangourujipa, ses environs donc en Diapanda et certains nous apprenons que sont déjà vers Butembo.
À noter que c'est la deuxième attaque des ADF dans le territoire de Lubero cette année, après celle de mars 2023 qui avait occasionné la mort d'au moins 14 civils dans le village de Nguni. Pour rappel, au moins 79 autres civils ont aussi été tués la semaine dernière dans des attaques des ADF dans le territoire de Beni, rapporte la société civile, 41 personnes selon un communiqué du gouvernement congolais. Notez par ailleurs que c'est depuis plus d'une décennie que les forces démocratiques alliées ADF, aujourd'hui affiliées au mouvement terroriste de l'État islamique, commettent des exactions graves contre les civils dans la région de Beni au Nord Kivu. Malgré les différentes opérations militaires et l'état de siège décrété il y a 3 ans, ce sont des milliers de civils qui sont déjà tués par cette rébellion d'origine ougandaise et qui a réussi tout de même à étendre sa zone d'exaction dans la province voisine de l'Ituri. Explication Martial Papimukeba.
Le 16 janvier 2014, les FRDC lancent l'opération militaire Sokola 1, attendue par la nettoyée pour la neutralisation des ADF. C'est après les kidnappings par cette rébellion des centaines de civils dans plusieurs villages du territoire de Beni. En quelques mois, cette opération militaire va permettre à l'armée de récupérer Medina, qui était à l'époque le quartier général des ADF. Malgré ces succès, la nuisance des ADF ne sera pas terminée. Le 15 octobre 2014, les ADF vont commettre la première tuerie de masse à Beni. 27 civils sont tués en Gadi et Kadoou, des quartiers de la ville. Depuis, des milliers de civils ont été tués par les ADF dans la région. Selon certaines sources, en 10 ans, au moins 14 300 civils ont été tués. D'autres avancent les chiffres de 17 000 civils tués, en plus des dizaines de milliers de personnes kidnappées et des centaines de maisons et structures sanitaires incendiées par les ADF. Jusqu'à ce jour, au moins 8 généraux des FRDC ont commandé à tour de rôle l'opération Sokola 1. Toutes les opérations militaires, d'un côté entre les FRDC et les casques bleus, et depuis le 30 novembre 2021 entre les armées congolaises et ougandaises, n'ont pas réussi à mettre fin au phénomène des ADF. Depuis 3 ans, ces rebelles qui se sont affiliés à l'État islamique ont même étendu leurs actions dans la province voisine de l'Ituri. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et justement en Ituri, les rebelles des ADF ont fait incursion mardi dans le village Masongo, chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa. Bilan, 6 personnes tuées, des dizaines d'autres prises en otage. Des sources locales ajoutent que 4 localités se sont vidées partiellement de leurs habitants qui craignent l'invasion de cette force négative qui a installé ses bastions dans la région. Nombreux sont ceux qui ont pris la direction du Nord Kivu, d'autres se cachent dans la brousse. L'administration du territoire, qui ne confirme pas ces informations, rassure que des opérations sont en cours pour traquer ces rebelles. Et puis au moins 20 cas de banditisme armé avec 8 décès sont enregistrés depuis janvier dans la cité de Mongwalu, à environ 85 km de Bunia, dans le territoire de Djougou, toujours en Ituri. Le dernier cas en date est le meurtre d'un négociant d'or abattu dans la nuit de mercredi à ce jeudi par des hommes armés qui ont emporté de l'argent et un colis d'or dans son comptoir d'achat d'or. 2 autres personnes étaient victimes lundi dernier des attaques des bandits armés. La société civile locale dénonce ce regain de criminalité et recommande aux autorités de stopper ces violences. Son président, Chérubin Kukundilawa, et joint au téléphone par Jean-Claude Loki Dile.
Nous estimons que le bouclage peut être important parce que les tueurs sont supposés être parmi la population, mais qui ne sont pas encore identifiés. Avec le bouclage, de façon inattendue, ça peut permettre à ce qu'on puisse appréhender soit des armes, mais aussi appréhender des suspects. Et loin de là, ce que nous sommes en train de déplorer, la population n'est pas encore en train de jouer suffisamment son rôle, celui de dénoncer, parce que la population doit collaborer avec les autorités. Et du côté des autorités, nous pouvons plaider pour le renforcement d'équipes, donc renforcement des policiers en effectif, mais aussi en matériel adapté pour de tels types de situations. Surtout la mobilité. Nous avons des policiers à Mongwa, mais qui n'ont pas de mobilité et qui sont en nombre insuffisant. Cela peut faire aussi à ce qu'il peut y avoir des dégâts qui se commettent, mais les auteurs vont se volatiliser sans qu'il y ait des personnes à leur poursuite, d'autant plus que la police est en difficulté de mobilité et en difficulté de personnel.
Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire en Ituri, notez qu'une 100aine de militaires des FRDC suivent depuis mercredi une formation sur les techniques et tactiques de combat par des hélicoptères au camp d'Oromo à Bunia. Cette formation, qui va durer 3 semaines, est assurée par les contingents guatémaltèques et bangladais de la MONUSCO. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée congolaise pour combattre les groupes armés dans des régions difficiles d'accès. Isaac Rémo.
Une première équipe d'environ 100 militaires a été soumise mercredi à des exercices de déploiement dans les zones de combat par des hélicoptères. Ces soldats portant leurs armes et descendaient à tour de rôle à l'aide de cordes et des gants. L'hélicoptère de la MONUSCO a fait une 10aine de tours de la base militaire de Tséré en Oromo. Selon les formateurs du contingent guatémaltèque de la MONUSCO, ces exercices permettent aux FARDC de se déployer partout, même dans des zones inaccessibles, notamment dans les territoires de Djougou et Irumu où les groupes armés sont actifs, mais aussi de s'adapter à un environnement difficile, notamment les montagnes, la brousse et la forêt. C'est la prévision des opérations militaires conjointes FARDC et MONUSCO pour la restauration d'une paix durable en Ituri. Signalons qu'environ 400 militaires des FARDC suivent cette formation qui va durer 3 semaines. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Plus d'1,2 million enfants âgés de 0 à 5 ans sont attendus pour la campagne gratuite de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Kwilu. Cette deuxième phase est couplée à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage au mébendazole qui a aussi commencé ce jeudi. Mais la cérémonie du lancement de la dite campagne a eu lieu hier au marché Office des routes dans l'aire de santé de Bondeko à Bandundouville en présence de plusieurs autorités sanitaires, politico-administratives, sécuritaires ainsi que des partenaires du ministère congolais de la Santé, Irène Bomaluzolo.
Cette deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui va du 13 au 15 juin 2024 est organisée dans toutes les 24 zones de santé du Kwilu. Elle cible près d'1,206,522 enfants de 0 à 5 ans du fait de leur vulnérabilité accrue. Dans son adresse lors de la cérémonie du lancement mercredi à Bandundu, Dr. Frédéric Bontango Kweme, assistant technique de l'OMS, a précisé ce qui suit.
Le vaccin VPO bivalent sera administré à tous les enfants de 0 à 59 mois. Chaque enfant recevra 2 gouttes de vaccin antipolio oral, la vitamine A et sera déparasité à l'albendazole.
Prenant la parole pour lancer la dite campagne, Dr. Arnold Kapalati, qui a représenté les gouverneurs des provinces, a lancé ce message.
Il n'y a pas un traitement, il y a poliomyélite autre que la vaccination. Et c'est un traitement préventif. Faisons effort pour faire vacciner nos enfants.
Précisons qu'avant le lancement de cette campagne, une caravane motorisée a été organisée dans les rues de la ville de Bandundu à ce sujet. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
La province de la Tchopo est aussi concernée par cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. De nombreux enfants ne sont pas encore protégés en effet contre le virus de la poliomyélite sauvage. 5 cas confirmés ont d'ailleurs été rapportés dans 3 zones de santé, dont celle de la Tchopo, dans la ville de Kisangani. Le lancement officiel de la campagne contre cette maladie paralysante a été présidé ce jeudi au foyer social de Kabondo par le gouverneur de province intérimaire Jean-Norbert Lokula Lolisambo, en présence notamment des partenaires techniques et financiers du gouvernement, à savoir UNICEF, OMS et Gavi. Dans le secteur de l'éducation formelle, notez que dans la province de Maniema, ils sont 22 970 candidats de la 7e année du degré secondaire, dont 10 107 filles, soit 44%, qui participent à l'épreuve de TENASOSP, test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Contrairement à l'année dernière, on enregistre un accroissement de plus de 7%, soit 21 375 candidats. Tous les candidats à ce test sont répartis dans 79 centres disséminés dans toute la province éducationnelle Maniema 1, dont 32 centres dans la ville de Kindu. Florence Kizalunga.
Selon le directeur de la province éducationnelle Maniema 1, cette épreuve a pour but de déceler les aptitudes des élèves pour une orientation vers les types d'enseignement organisés au niveau du secondaire à l'issue duquel les lauréats seront orientés selon leurs aptitudes intellectuelles. Mokito Gaunda.
Chers élèves, vous venez de franchir une avant-dernière étape du cursus scolaire, la 8e de l'éducation de base. Travaillez à l'aise, sans précipitation, tout en évitant la tricherie.
L'inspecteur principal provincial recommande ceci à tous les intervenants. Gabriel Yika.
Tenons à recommander à tous les opérateurs éducatifs intervenant dans les différents centres de passation à militer, selon les instructions officielles, au bon climat de passation de toutes ces épreuves. À tous les candidats de s'éloigner de la peur, d'éviter la tricherie, la fraude et toute autre sorte d'antivaleur. Comptez sur vos propres efforts, prenez courage et vous réussirez.
Sachez que c'est le représentant du gouverneur intérimaire qui a lancé cette épreuve à l'école d'excellence. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, la route de Kimwenza est très délabrée sur son tronçon compris entre la place dite Triangle et la concession de l'université de Kinshasa. Depuis quelques mois, cette voie est devenue presque impraticable. Une route pourtant réhabilitée il y a juste une année. Les habitants du coin et d'autres usagers s'en plaignent. Étienne Lissumbu s'est rendu sur place.
À l'origine de ces délabrements rapides, les habitants citent l'affaissement du pont et la vente de terrain au rond-point Triangle, un lieu qui servait de site de maraîchage. Aujourd'hui, plusieurs habitants y ont vu le jour.
Les problèmes de ce délabrement et les personnes à qui les chefs coutumiers ont vendu les terrains qui autrefois étaient les terrains des champs. Ils ont construit sur les caniveaux et l'on n'a pu autre voie d'évacuation.
Ce qui confirme aussi le bourgmestre de Lemba. Pour Jean-Serge Poba, ces constructions ont rétréci les lits de la rivière et accru le risque d'inondation.
Oui, donc le niveau du pont est tellement bas que les eaux, quand il y a la pluie, les eaux débordent.
Selon le bourgmestre de Lemba, les inspecteurs de l'office de voirie et drainage, OVD, sont déjà passés sur place s'y rendre compte de la situation. Il parle aussi du plan visant à libérer l'espace autour de la rivière.
Et l'OVD a envoyé le chef de brigade pour faire une évaluation et leur faire rapport.
Le mauvais état des routes rend difficile l'accès aux sites universitaires, aux grandes écoles et autres fermes situées dans ces coins. Il pénalise aussi de nombreux maraîchers qui ravitaillent la ville aux produits de champs.
L'invité.
Notre invité, c'est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, Monseigneur Donatien Cholet, réagit à l'investiture du gouvernement souminois et parle de l'accompagnement de ce gouvernement par l'Église catholique pour la mise en œuvre du programme présenté par la Première ministre pour le bien-être du peuple congolais. Monseigneur Donatien Cholet s'entretient avec Grâce Amzati. Suivez.
Monseigneur Donatien Cholet, bonjour.
Bonjour.
Finalement, le gouvernement souminois est investi par l'Assemblée nationale après une longue période d'attente, marquée notamment par des tractations politiques. Quelle est votre première impression?
D'abord, c'est une satisfaction qu'enfin on ait un gouvernement en place pour servir le peuple congolais. Ce n'est pas le moment de donner des impressions, c'est plutôt le vœu que ce gouvernement se mette effectivement en œuvre pour le changement tant attendu par le peuple congolais. Le président de la République, dans son discours après les élections, s'était engagé à corriger les erreurs passées. Ces erreurs ne seront pas corrigées sans l'implication du gouvernement. Donc, nous souhaitons bonne chance à ce gouvernement, Madame la Première ministre et tous les ministres. Et comme Église, nous avons l'obligation de les accompagner pour la réussite de leur mission. Concrètement, notre commission épiscopale Justice et Paix fera une sorte de monitoring de la mise en œuvre du programme de gouvernement pour aider le gouvernement aussi à évaluer progressivement son programme. Et je crois que le peuple congolais en bénéficiera.
La première ministre prévoit la mobilisation des 18 milliards de dollars américains par an pour matérialiser ce programme d'action du gouvernement qui se fonde sur 6 piliers. Est-ce que, selon vous, ce programme rencontre les attentes de la population?
Bon, je crois que s'il est mis en application, il n'y a pas de programme parfait, mais ce programme, à le lire, s'il est mis en application comme tel, il y aura certainement des retombées sur la vie du peuple congolais, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Si le gouvernement réussit à mobiliser les 18 milliards, il ne suffit pas de les mobiliser, mais il faudra aussi bien les gérer. Et il faudra qu'on mette fin au système de détournement auquel on est habitué. Il faut une conjugaison de force, il y a plusieurs éléments qui devraient entrer en jeu pour que si on arrivait à mobiliser ces 18 millions, qu'il y ait vraiment un changement dans la vie du Congolais.
Et selon vous, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui pour le peuple congolais?
Pour le peuple congolais, c'est d'abord de vivre dignement. Vivre dignement, c'est-à-dire les besoins élémentaires fondamentaux de toute personne humaine soient rassurés et garantis par le gouvernement. Il s'agit de la vie au quotidien, il s'agit des soins médicaux, il s'agit de l'éducation et aussi de la sécurité.
Alors, ce gouvernement arrive au moment où le pays est menacé par la guerre, notamment dans sa partie est. Pensez-vous que c'est un défi qui sera relevé tout de suite au regard du programme de ce gouvernement?
Tout dépendra de la capacité de ce gouvernement autour du chef de l'État à manager cette réalité. La CENCO a toujours lancé un appel qui malheureusement est resté sans suite par rapport à cette crise. C'est de créer un cadre de renforcement de la cohésion nationale autour de cette crise pour renforcer la diplomatie de l'État, c'est-à-dire que les forces vives de la République se retrouvent autour de cette question pour l'analyser profondément, pour dégager une option nationale qui renforcerait la diplomatie. Il ne s'agit pas d'un dialogue pour partager le pouvoir, nous parlons précisément de la question de l'Est.
Et quelles sont vos recommandations, les recommandations de l'Église catholique à ces nouveaux gouvernements pour que les attentes du peuple congolais soient réalisées? Et la Première ministre parle notamment de la paix, la création d'emplois, l'accès aux soins de santé, à l'eau et à l'électricité, mais aussi la stabilité du taux d'échange.
Bon, de manière générale, la CENCO ne peut qu'encourager le gouvernement à mettre en pratique de façon sérieuse son propre programme. Pour le reste, il y aura certainement une approche au niveau de la CENCO pour rencontrer les chefs de gouvernement et changer un peu dans le détail sur certains aspects.
Le gouvernement, tant attendu, commence son travail. Un mot à la population.
Eh bien, je recommanderai à la population de faire confiance à ce gouvernement, de lui faciliter la tâche dans l'exécution de son programme, mais aussi d'être vigilante. Vigilante pour ne pas tolérer le dérapage en sa défaveur.
Monseigneur Donatien Cholet, je vous remercie.
Je vous en prie.